Le fils Moga. Première partie, chapitre 15. La nouvelle du coup d'État avait agité Étienne Moga beaucoup plus vivement qu'on ne le supposait dans sa famille. Dans la soirée du 3 décembre, sa mère avait réussi à l'empêcher de sortir, mais le lendemain, dès le matin, il était dans la rue. La première personne qu'il rencontra fut Célestin Thiffenot. Le pauvre garçon avait passé une nuit blanche, effrayé des suites probables de sa déposition, n'osant parler de rien, même à seconde. Il n'avait pu fermer l'œil et sa longue figure défaite trahissait les tourments de son cœur. « Vous semblez inquiet, » lui dit Étienne. « Votre femme serait-elle malade ?»« Non, merci, monsieur Étienne. Seconde va bien. Ce n'est pas d'elle qu'il s'agit. Mais quel malheur tout de même. Vous savez, mademoiselle Thérèse Desroches qui était à mes noces. » « Que lui est-il arrivé ?» demanda Étienne en pâlissant. « Son père a dû être arrêté ce matin. »« Est-ce possible ? En êtes-vous sûr ?» Le malheureux Célestin n'en était que trop sûr. Du moins, les reproches de sa conscience le lui faisaient tenir pour certain. Il voyait encore devant lui les mines sévères et rogues du sous-préfet et du procureur, assis derrière une table verte dans la salle du parquet, tandis qu'un commis greffier écrivait la déposition accusatrice. D'ailleurs, l'un des facteurs de la poste avait aperçu au petit jour la maison Desroches cernée par les gendarmes. Il n'était pas douteux que le docteur n'eût été pris au saut du lit. « La pauvre demoiselle, » continua Célestin, « jugez quel saisissement, et que va-t-elle devenir seule ?» À son âge. Étienne ne l'écoutait déjà plus. Cédant à un premier mouvement, il s'était élancé dans la direction de la rue Louis XIII. Le quartier était encore en émoi. Des femmes se penchaient aux fenêtres et des groupes stationnaient sur le chemin, regardant la maison Desroches dont la grille était restée grande ouverte. Le jeune homme s'y précipita. Dans la cuisine, la servante, bouleversée, allait et venait d'un air ahuri en essuyant ses yeux avec le revers de sa manche. « Où est le docteur Desroches ?» demanda Étienne. Tout en ravalant un sanglot, elle secoua les épaules sans répondre. « Est-ce qu'on l'a arrêté ?»« Ils sont venus pour le prendre, mais ils ne l'ont pas trouvé, le pauvre homme. »« Et mademoiselle Thérèse ?»« Elle est là-haut. » Il gravit rapidement l'escalier et entra dans le cabinet du docteur. La pièce gardait encore les traces du passage des gens de la police. Tiroirs forcés, vitrines béantes, papiers épars sur le carreau. Après avoir perquisitionné dans toute la maison et fait subir un pénible interrogatoire à la jeune fille, le commissaire de police s'était retiré en constatant la disparition du médecin. Thérèse était assise dans un fauteuil, le front dans ses mains, et le regard perdu dans le vide. Au bruit des pas, elle se retourna lentement et, apercevant Étienne Moga, elle se leva d'un air indigné. « Comment osez-vous vous présenter ici ? » murmura-t-elle. « Venez-vous le chercher ? Vous aussi ? Il s'est sauvé à temps. Dieu merci ! Et ses ennemis ne le trouveront pas !»« J'avais peur qu'on ne l'eût arrêté, » répondit Étienne. Et je m'étais permis d'entrer pour vous offrir. » Il balbutia et s'interrompit, déconcerté par l'étrange regard de mépris qui tombait des yeux de Thérèse. « Offrir quoi ? » reprit-elle avec une ironie amère. « Vos bons avis ? C'était hier qu'il fallait venir nous dire ce que vous saviez. Hier ? » Hier ? S'exclama-t-il stupéfait. « Mais je ne savais rien. C'est ce matin seulement. » « À quoi bon mentir ? » répliqua-t-elle avec colère. « Vous n'ignorez rien, pas plus que Célestin Thiffenot. Vous étiez instruits, tous deux, de la trahison de votre père. »« Mon père ? La douleur vous égare, mademoiselle. Comment pouvez-vous croire, mon père, capable d'une pareille vilainie. Je crois Monsieur Moga capable de tout. La vue de mon père lui était désagréable. Nous le gênions, et il s'est débarrassé de nous. » Étienne la regardait d'un air sombre, tandis que, debout contre le bureau semé de papiers déchirés, elle tordait nerveusement dans ses doigts un fragment de journal. « Des preuves ? » murmura-t-il. « Quelles preuves avez-vous contre nous ?»« Hier, votre père a dénoncé le mien à la sous-préfecture. Il a amené avec lui M. Tiffenot pour appuyer sa dénonciation. Et c'est sur leur témoignage que l'arrestation a été ordonnée. Interrogez Célestin, et si son patron ne l'a pas complètement corrompu, il avouera la vérité.
Mais ce serait une infamie.
C'en est une. Du reste, ajouta-t-elle tristement, à quoi bon ces explications? Laissez-moi. Je suis lasse. Je vais quitter le pays. Et en le quittant, je n'ai qu'un désir. C'est de pouvoir oublier le nom de Moga et tous ceux qui le portent.
« Mademoiselle, » dit Étienne avec un frémissement dans la voix,
« si ce que vous supposez est vrai, je n'ai pas le droit de vous reprocher la dureté de vos paroles. J'ose encore douter, cependant. Mais si c'était vrai, si mon père a eu réellement le pouvoir funeste que vous lui attribuez, j'en jure, par ce qu'il y a de plus sacré, avant ce soir, il aura réparé le mal qu'il a fait, ou il n'y aura plus rien de commun entre lui et moi. » Il chercha à rencontrer une dernière fois le regard de Thérèse, mais elle avait détourné la tête. Alors il sortit précipitamment et gagna la rue. 5 minutes après, il était dans le vestibule de sa propre maison et, ouvrant brusquement la porte de son père, il entrait sans frapper dans le cabinet du banquier. Par cette brumeuse journée de décembre, la pièce avait encore un aspect plus sinistre et plus tragique. Bien que, depuis 24 heures, elle fût devenue le cabinet du nouveau maire de Saint-Clémentin, la récente dignité du maître n'y avait mis ni une lueur ni un sourire. Les rideaux pendaient lamentablement le long des vitres poudreuses. Le papier déchiré se recroquevillait avec le même air maussade sur le plâtre à des murs, et la pendule sonnait les heures avec sa même voix enrouée et inhospitalière. M. Moga, tout de noir habillé, décachetait son courrier devant le bureau, où un chapeau et des gants posés sur le casier indiquaient qu'il se préparait à sortir. En voyant son fils pénétrer avec ce sans-façon dans son sanctuaire, il se leva avec humeur et fronça les sourcils.
« Depuis quand entre-t-on ici comme dans un moulin ? »
s'écria-t-il.
« Ne pouvais-tu t'informer d'abord si j'étais disposé à te recevoir ? » ?»«
Je n'aime pas ces manières-là, tu le sais bien. »
« Mon père, » commença Étienne sans perdre de temps à s'excuser.
« Les gendarmes sont venus ce matin chez le docteur Desroches pour l'arrêter. »
Le banquier regarda son fils d'un air impassible.
« Ensuite, on dit que M. Desroches a été dénoncé par vous sur le témoignage de Célestin. »
M. Moga ne put réprimer un mouvement de colère.
« Cet imbécile de Tiffenot n'a donc pas pu tenir sa langue ! »
s'exclama-t-il.
« Tonnerre de Dieu ! Je la lui ferai rentrer dans le gosier !»«
C'était vrai ?» murmura Étienne avec un accent déchirant. Puis il reprit d'une voix plus ferme.
« Célestin n'a pas parlé. Je tiens tout de Mademoiselle Desroches, que je quitte à l'instant. »«
Ah ! Dans ce cas, cette demoiselle n'a dit que la moitié de la vérité. »
Son père s'était dénoncé lui-même par ses propos séditieux.
Il était noté comme un agent de désordre, et il m'appartenait, en ma qualité de magistrat civil, de faire arrêter un homme dangereux pour la tranquillité publique.
C'était une triste besogne, et il eût mieux valu la laisser faire par la justice.
Là-dessus, je ne dois de compte qu'à ma conscience. Je suis l'esclave de la loi.
« La loi ?
s'écria Étienne indigné. Il s'arrêta et, se contraignant,
« Au surplus, ajouta-t-il, cette mesure odieuse a été prise en pure perte, car le docteur Desroches, prévenu à temps, a pu s'échapper.
« Nous le savons, répliqua sèchement M. Mauga. Mais nous sommes sur ses traces, et avant peu, il sera sous les verrous.
Mon père, dans l'intérêt de votre honneur et du mien, ne continuez pas cette poursuite acharnée contre un homme dont le seul crime est de n'avoir pas les mêmes opinions que vous.
Mon honneur n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, la justice est saisie et je n'ai plus le droit de me mêler de l'affaire.
Vous en avez le droit et le pouvoir, affirma énergiquement Étienne. En ce moment, vous êtes tout puissant à Saint-Clémentin. Le parquet et la sous-préfecture n'agissent que d'après vos conseils. Hier, vous vous en vantiez encore devant ma mère et devant moi. Il est de votre devoir d'employer cette toute-puissance à réparer le mal qu'elle a servi à faire.
« Mon devoir, » répliqua M. Mauga en se redressant et en boutonnant sa redingote, « est d'assurer le succès de l'acte sauveur du 2 décembre, en débarrassant le pays des factieux qui voulaient le mettre à feu et à sang. »
C'était l'une des phrases de la proclamation qu'il avait adressée le matin même à ses administrés. Il la trouvait belle, et il n'était pas fâché d'en essayer l'effet sur son fils. Mais celui-ci n'en parut pas le moins du monde ébranlé.
« Il ne s'agit pas de politique, mais d'humanité !» s'écria-t-il.
« Songez que, si vous n'étouffez pas l'affaire, cet homme sera jeté en prison ou forcé de vivre en exil.
Dans les deux cas, il est ruiné. Et sa fille, une enfant de 17 ans, reste seul, sans fortune, exposé à tous les dangers et à toutes les misères.
« Ah !» fit le banquier en haussant les épaules. « Voilà le fin mot. Cette fille te tient donc bien au cœur ?»«
Oui, avoua imprudemment Étienne.
« Oui, je l'aime, et le coup dont vous la frapperez m'atteindra en pleine poitrine. »
Monsieur Mauga sourit ironiquement. Et se croisant les bras,
« Et tu crois, » demanda-t-il, « que pour une niaise question de sentiment, pour une amourette, je vais entraver le cours de la justice, compromettre ma situation et déranger des combinaisons mûrement réfléchies ?»«
Mon garçon, tu ne connais pas encore Simon Mauga.
Quand j'ai une fois pris une résolution, je ne m'arrête jamais à moitié chemin.
Le mandat d'arrêt est lancé. Il sera exécuté. Et un jour, tu me remercieras de t'avoir empêché de faire une sottise.
J'ai dit, en voilà assez. On m'attend à la mairie et je suis pressé.
Il brossa rageusement son chapeau avec sa manche et le posa sur sa tête.
Mon père,
et tout en s'adressant à Monsieur Mauga, Étienne s'était placé entre lui et la porte.
« Que ce ne soit pas là votre dernière parole. Montrez-vous généreux, juste et humain, comme j'ai longtemps cru que vous l'étiez.
Si vous avez de l'amitié pour moi, ne partez pas ainsi. Ne me poussez pas au désespoir par un refus. Je vous ai toujours respecté, j'ai eu pour vous un culte de tendresse et d'admiration. Ne brisez pas d'un mot les liens de respect qui m'attachent à vous.
Si vous pouviez lire au fond de mon cœur, vous verriez ce que je souffre en ce moment. Je vous promets de vous sacrifier tous mes goûts, tous mes rêves, mais, à votre tour, sacrifiez-moi votre rancune.
Je t'en prie, s'écria-t-il en reprenant le tutoiement familier d'autrefois et en lui saisissant les mains.
Sois bon. Je t'en prie, au nom de l'ancienne intimité de notre vie de famille, au nom du repos et du bonheur de la maison, au nom de ma mère. »
Les supplications d'Étienne étaient si énergiques, si désespérées et si poignantes que l'on eût dit qu'elles voulaient pénétrer jusque dans l'âme obscure des choses, jusque dans l'intime substance des meubles qui garnissaient le cabinet du banquier. Ce maussade cabinet de travail, qui avait déjà entendu, depuis 15 ans, bien des prières navrantes,
n'en avait jamais ouï de pareille à celle-là. Elle s'échappait des lèvres du jeune Moga avec une intensité d'accent qui aurait remué des pierres. Le papier en lambeaux et les plâtras des murs en devaient être imprégnés pour longtemps. Les rideaux fanés devaient les retenir durant bien des jours dans leurs plis, et la pendule devait les sentir vibrer longuement sur son timbre fêlé. Un instant, elles percèrent même la dure carapace de M. Moga. Au contact des mains brûlantes de son fils, cette nature de granit sembla s'échauffer et s'amollir, et quelque chose du père palpita pendant un moment sous la rugueuse enveloppe de l'homme d'affaires. Mais la façon dont ce manieur d'argent entendait l'amour paternel ne lui permettait pas de céder à une émotion qu'il regardait comme une faiblesse. Le nom de Madame Moga, invoqué innocemment par Étienne, amena un sourire sur ses lèvres, et ce fut fini. L'attendrissement s'évapora. Simon Moga reprit tout son aplomb, toute sa raideur, et dégageant ses mains de l'étreinte d'Étienne,
« Tu déraisonnes, dit-il, et je n'ai pas de temps à perdre. Bonjour. »
Il enfonça résolument son chapeau, écarta vivement son fils et s'esquiva par la petite porte des bureaux. Son pas violent faisait crier les marches de l'escalier du couloir. Il s'en allait, enchanté de s'être tiré à peu de frais d'une situation désagréable. Et il ne songeait pas que, derrière lui, au fond de ce cabinet où Étienne demeurait, pâle, les dents serrées et les oreilles bourdonnantes, tout un écroulement silencieux se produisait dans l'ombre. Tandis que l'ancien maçon sortait, fier d'avoir maintenu sa volonté, l'édifice de prospérité domestique qu'il avait si laborieusement élevé s'effondrait à tout jamais, entraînant dans ses décombres l'estime, le respect et l'amour de ce fils unique pour lequel il avait amassé, par tous les moyens, une fortune princière. Et, à la place où ces ruines venaient de s'engloutir, un abîme infranchissable se creusait entre le père et l'enfant. À cette même heure, Thérèse Desroches achevait ses préparatifs de départ. Les gens de justice n'avaient point perdu de temps et, sitôt la fuite du docteur connue au parquet, ordre avait été donné de mettre sous séquestre les biens de M. Desroches. Le président Sourdeval était accouru alors et avait offert à Thérèse de l'emmener au palatrie. Mais la jeune fille avait refusé, en annonçant son intention de se retirer sur le champ chez son père nourricier. Le président n'insista pas. Bien qu'il fût inamovible, il avait peur pour son repos, et il trouvait qu'il s'était déjà suffisamment compromis pour son camarade Desroches, dans un moment où ceux qui donnaient asile aux républicains étaient regardés comme les ennemis du gouvernement. Restée seule, Thérèse chargea la servante de porter sa malle aux messageries. Le courrier de Poitiers était parti dès l'aube, et la jeune fille ne voulait pas rester un jour de plus à Saint-Clémentin. Elle était trop pauvre maintenant pour louer une voiture particulière, et elle résolut de faire à pied les deux lieues qui la séparaient des Maisons Blanches, où la diligence d'Angoulême passait dans la soirée. Elle s'enveloppa dans un châle, et, tenant à la main un petit sac où il y avait un peu de linge et des objets de toilette, suivie de Dash qu'elle emmenait, elle quitta pour toujours la maison de la rue Louis XIII. Elle gagna, par un sentier détourné, la route de Niort. Il tombait une pluie fine et, derrière elle, Saint-Clémentin disparaissait dans le brouillard. Morfondu, les yeux humides et le cœur gros, Thérèse marchait rapidement à travers la brume, sur cette grande route banale qui est le seul domaine laissé à ceux qui n'ont plus de foyer domestique et qui cheminent sans famille vers un gîte incertain.
entre ces deux fils dorment, aux branches noires et effeuillées, plus d'un malheureux était passé avant elle. Vagabond, enfant sans mère, ouvrier sans ouvrage. Peut-être même
le docteur Desroches errait-il aussi sur le grand chemin boueux, en évitant les villages et en croyant entendre à chaque minute les chevaux des gendarmes du 2 décembre.
La brume augmentait. La nuit allait tomber. Thérèse resserrait sur ses épaules les plis du tartan mouillé et se sentait comme perdue dans la campagne assombrie et déserte. À la croisée des routes de Niort et de Bordeaux, elle posa son sac sur les degrés d'un poteau et prêta l'oreille. Tout à coup, Dache aboya et, à travers l'obscurité pluvieuse, la jeune fille entendit tinter les grelots de la diligence qui devait l'emporter loin de Saint-Clémentin.